11. Jour après jour, dans cette petite ville du Sud, Tim Jamison adopta une routine réconfortante. Il n'avait pas l'intention de passer sa vie à Dupré, mais il se voyait bien être encore là à Noël, peut-être même qu'il mettrait un sapin artificiel dans son minuscule appartement au-dessus du garage, voire jusqu'à l'été prochain. Certes, ce n'était pas une oasis culturelle, et il comprenait pourquoi les jeunes, dans leur ensemble, se démenaient pour échapper à cet ennui monochrome. Lui s'y épanouissait. Il savait que cela ne durerait pas, mais pour le moment c'était parfait. Il se levait à 18h, dînait au Beffs, seul ou avec un des adjoints du shérif, effectuait sa tournée pendant les 7 heures suivantes, prenait son petit déjeuner au Beffs, conduisait un chariot élévateur dans les entrepôts jusqu'à 11h, puis à l'ombre de la gare, il avalait un sandwich et un coca ou un thé glacé en guise de déjeuner, et il rentrait chez Madame Burkett pour se reposer jusqu'à 18h. Les jours de congé, il lui arrivait de dormir pendant 12 heures d'affilée. Il lut les thrillers juridiques de John Grisham et toute la saga du Trône de Fer. Il était un grand admirateur de Tyrion Lannister. Il savait qu'il existait une série télé inspirée des romans de Martin, mais il n'éprouvait pas le besoin de la regarder. Son imagination lui fournissait tous les dragons dont il avait besoin. En tant que policier, il avait appris à connaître le visage nocturne de Sarasota, aussi différent de l'ambiance surf et soleil qui régnait en journée dans cette station balnéaire que Mr. Hyde était différent du Dr. Jekyll. Le visage nocturne était souvent répugnant, parfois dangereux. Et même s'il ne s'était jamais abaissé à employer cette expression odieuse que les flics utilisent pour qualifier les drogués morts et les prostituées agressées, AHT, aucun humain touché, 10 ans dans la police l'avaient rendu cynique. De temps en temps, souvent, s'avouait-il, quand il voulait être honnête, il rapportait cet état d'esprit à la maison, et c'était devenu une composante de l'acide qui avait rongé son mariage. C'était également, devinait-il, une des raisons pour lesquelles il avait toujours refusé d'avoir des enfants. Il y avait trop de trucs moches au dehors. Trop de choses qui pouvaient mal tourner. Bien plus grave qu'un alligator sur un parcours de golf. En acceptant ce poste de veilleur de nuit, il n'aurait jamais imaginé qu'une bourgade de 5 400 habitants, vivant pour la plupart dans les zones rurales périphériques, pouvait avoir un visage nocturne, et pourtant si. Et Tim s'aperçut qu'il aimait ça. À vrai dire, les personnes qu'il rencontrait la nuit constituaient le meilleur aspect de son travail. Il y avait Madame Goolsby, avec qui il échangeait un signe de la main et un bonsoir discret quand il commençait sa première tournée. Assise dans son fauteuil à bascule sur sa terrasse, elle se balançait doucement d'avant en arrière, en portant à ses lèvres une tasse qui contenait peut-être du whisky, du soda ou de la camomille. Parfois, elle était encore là quand il effectuait son deuxième aller-retour. Frank Potter, un des adjoints avec qui il dînait de temps en temps au Beffs, lui avait appris que Madame G avait perdu son mari l'année précédente. Le semi-remorque de Wendell Goolsby avait effectué une sortie de route dans le Wisconsin en plein blizzard. Elle a même pas 50 ans, mais Wen et Addie étaient mariés depuis un bail, avait dit Frank. Ils avaient même pas l'âge de voter ou d'acheter de l'alcool à l'époque. Comme dans la chanson de Chuck Berry, celle de l'ado qui se marie. Ce genre d'histoire, ça dure pas longtemps généralement, mais eux si. Tim fit également la connaissance d'Annie l'orpheline, une sans-abri qui passait souvent la nuit sur un matelas pneumatique dans une ruelle entre le bureau du shérif et le magasin Dupré Discount. Elle possédait également une petite tente plantée dans un champ derrière la gare, et quand il pleuvait, elle y dormait. Son vrai nom, c'est Annie Ledoux, avait précisé Bill Wicklow quand Tim lui avait posé la question. Bill était le plus âgé des adjoints de Dupré. Employé à mi-temps, il semblait connaître tout le monde en ville.
Ça fait des années qu'elle dort dans cette ruelle. Elle aime mieux ça que la tente.
Et quand il commence à faire froid, avait demandé Tim.
Elle va à Yemassi. Ronnie Gibson l'accueille la plupart du temps. Ils sont plus ou moins parents. Cousin au troisième degré, un truc comme ça. Il y a un refuge pour sans-abri là-bas. Mais Annie refuse d'y aller. Sauf quand elle est obligée, soi-disant parce qu'il y a un tas de cinglés. C'est l'hôpital qui se fout de la charité.
Tim inspectait la cachette d'Annie une fois par nuit, et un jour, mu par la curiosité, il alla voir sa tante après avoir fini son travail à l'entrepôt. 3 drapeaux fixés sur des bambous étaient plantés dans la terre devant l'entrée. une bannière étoilée, un drapeau confédéré et un autre que Tim ne connaissait pas.
« C'est le drapeau de la Guyane », lui apprit Annie quand il lui posa la question. « Je l'ai trouvé dans une poubelle derrière le Zonis. Joli, hein ?»
Assise dans un fauteuil recouvert de plastique transparent, elle tricotait une écharpe qui semblait assez longue pour un des géants inventés par George R. R. Martin. De naturel plutôt chaleureux, elle n'affichait aucun signe de ce que les collègues de Tim à Sarasota appelaient « la parano des sans-abri », mais elle était fan des programmes de la nuit sur WMDK, et sa conversation empruntait parfois d'étranges chemins détournés où apparaissaient des soucoupes volantes, des transferts d'âmes et des possessions démoniaques. Un soir où Tim la découvrit allongée sur son matelas pneumatique dans la ruelle, l'oreille collée à sa petite radio, il lui demanda pourquoi elle restait là alors qu'elle possédait une tante qui semblait en parfait état. Annie l'orpheline, âgée de 60 ans ou de 80, le regarda comme si elle avait affaire à un fou.
Ici, je suis près de la police, répondit-elle. Vous savez ce qu'il y a derrière la gare et les entrepôts, monsieur J?
Des bois, j'imagine.
Des bois et des marécages. Des kilomètres de brûlis, de bouillasses et de pièges, jusqu'en Géorgie. Il y a des créatures là-bas, et aussi quelques êtres humains malfaisants. Quand il pleut comme vache qui pisse et que je suis obligé de coucher sous ma tente, je me rassure en me disant qu'ils vont pas sortir en plein déluge. Mais je dors pas très bien.
Je garde mon couteau à portée de main, même si, à mon avis, il me servirait pas à grand-chose face à un rat des marais défoncé aux amphées.
Annie était presque émaciée tellement elle était maigre, et Tim prit l'habitude de lui apporter des petites gâteries du Bev's avant d'aller pointer à l'entrepôt. Parfois, c'était un sachet de cacahuètes grillées ou de lamelles de porc séchées. Parfois, un biscuit au chocolat ou une tarte aux cerises. Un jour, il lui apporta un bocal de Wickles, des cornichons épicés, qu'Annie lui arracha des mains et plaqua contre sa poitrine décharnée en riant de bonheur.
« Des Wickles ? J'en ai pas mangé depuis qu'Hector était gamin. Pourquoi vous êtes si gentil avec moi, monsieur J ?»«
Je sais pas, il faut croire que je vous aime bien. Je peux en goûter un ?»
« Bien sûr. »
Elle lui tendit le bocal.
« De toute façon, c'est à vous de l'ouvrir. J'ai trop mal aux mains à cause de mon arthrite. »
Elle lui montra ses doigts, tellement déformés qu'ils ressemblaient à des morceaux de bois flottés.
« Je peux encore tricoter et coudre, mais Dieu seul sait pendant combien de temps. »
Tim ouvrit le bocal en grimaçant un peu à cause de la forte odeur de vinaigre et piocha une rondelle de cornichon, dégoulinante d'une substance qui aurait pu être du formaldéhyde.
Rendez-le-moi, rendez-le-moi.
Il lui rendit le bocal et mangea la rondelle de cornichon.
Ah, nom d'un chien, Annie, je crois que je vais garder ce rictus toute ma vie.
Elle rit, dévoilant quelques dents restantes.
C'est meilleur avec du pain et du beurre ou un bon coca bien frais, ou une bière. Mais ça, j'en bois plus.
Qu'est-ce que vous tricotez? Une écharpe?
« Le Seigneur ne viendra pas vêtu de son propre habit, » répondit Annie. « Partez maintenant, monsieur J, et allez faire votre devoir. Méfiez-vous des hommes en voiture noire. George Allman parle toujours d'eux à la radio. Vous savez d'où ils viennent, hein ?»
Elle lui lança un regard complice. Peut-être plaisantait-elle, peut-être pas. Avec Annie l'orpheline, difficile à dire. Corbett Denton était un autre habitant du visage nocturne de Dupré. Unique coiffeur de la ville, on le surnommait « Drummer » à la suite de quelques exploits d'adolescent dont personne ne se souvenait avec exactitude, mais qui lui avait valu d'être exclu un mois du lycée. Peut-être avait-il fait les 400 coups durant ses jeunes années, mais ce temps était bien loin. Sexagénaire désormais, en surpoids, presque chauve, il souffrait d'insomnie. Quand il n'arrivait pas à dormir, il s'asseyait sur le perron de son salon et contemplait la rue principale déserte. Déserte à l'exception de Tim, évidemment. Ils échangeaient les banalités d'usage, comme deux personnes qui se connaissent à peine, la météo, le baseball, la brocante estivale annuelle. Mais une nuit, Denton dit une chose qui mit Tim en alerte orange.
« Vous savez, Jamison, cette vie qu'on croit mener, elle n'existe pas. Ce n'est qu'un théâtre d'ombre, et en ce qui me concerne, je ne serai pas mécontent quand les lumières s'éteindront. Dans l'obscurité, toutes les ombres disparaissent. »
Tim s'assit sur le perron, sous l'enseigne du salon de coiffure, dont la spirale tricolore perpétuelle avait cessé de tournoyer jusqu'au lendemain. Il ôta ses lunettes, les essuya avec sa chemise et les remit sur son nez.
« Je peux vous parler librement ?»
D'une pichenette, Drummer Denton lança sa cigarette dans le caniveau, où elle projeta quelques brèves étincelles.
« Allez-y. Entre minuit et 4 heures du matin, chacun devrait avoir le droit de s'exprimer en toute liberté. Du moins, c'est ce que je pense.
Vous me faites l'impression d'être un homme dépressif. »
Cette remarque fit rire Drummer.
« On vous appelle Sherlock Holmes ?»«
Vous devriez aller voir le docteur Roper.
Il existe des pilules qui vous redonneront le moral. Mon ex-femme en prend, même si le fait de se débarrasser de moi a eu certainement plus d'effet à ce niveau-là. »
Il sourit pour montrer qu'il plaisantait, mais Drummer Denton ne lui rendit pas son sourire. Il se leva.
« Je connais ces pilules, Jamison. C'est comme l'alcool et la marijuana. »
Et sans doute comme l'ecstasy que les jeunes prennent de nos jours quand ils vont dans leurs rêves ou je ne sais quoi.
Ces machins vous font croire pendant un moment que tout est vrai, que c'est important. Mais c'est faux.
Allons, allons, il faut pas être comme ça.
Selon moi, c'est la seule façon d'être,
déclara le coiffeur. Et il marcha vers l'escalier qui menait à son appartement, au-dessus du salon, d'un pas traînant. Tim le suivit du regard, troublé. Il songea que Drummer Denton faisait partie de ces individus capables de se suicider un soir de pluie, en emportant son chien dans la tombe, s'il en avait un. À l'image des pharaons de l'Égypte ancienne, il envisagea d'en parler au shérif John, puis il pensa à Wendy Gullickson, toujours distante envers lui. Il ne voulait surtout pas qu'elle ou un des autres adjoints pense qu'il outrepassait ses fonctions. Il n'appartenait plus à la police, il n'était que le veilleur de nuit. Alors mieux valait laisser tomber. Mais Drummer Denton demeura dans un coin de sa tête.